Bonjour à tous, hein. Ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Hein. Je m'appelle Samuel Cassidé, donc je suis le gendre de Gérard. Hein. Gérard Rizzi et l'époux de sa fille aînée, hein, Rachel Rizzi. Je suis donc, un des pasteurs de l'église Maranatha à Ogny, une petite bourgade qui est à 30 km au nord-ouest de Paris, bien boisée, et je vous transmets d'ailleurs leurs salutations. Ce matin, j'avais envie avec vous de prendre un temps autour de la parole. Bien évidemment, vous dites que c'est quand même mieux si on doit partager autour de la parole de Dieu. Alors, moi j'aime bien faire deux choses, moi, parce que j'aime bien faire du bien lorsque j'apporte un message, et ça me plaît toujours. Mais j'ai aussi cette fâcheuse tendance à être aussi poil à gratter. Alors, ça c'est toujours ennuyeux, mais moi j'ai pris un modèle qui est celui de Jésus, qui est le modèle par excellence, hein, qui a toujours su être aimant et dans le même temps a toujours su être un peu poil à gratter. Alors ce matin, on va être un peu poil à gratter, je vais être un peu poil à gratter pour vous, hein, en faisant confiance au Saint-Esprit pour la manière dont il va vous interpeller. J'aimerais juste prendre le temps d'élever la voix et de prier pour cette parole. J'aimerais à Rachel si elle le veut bien. Elle le veut bien, je sais qu'elle est heureuse que l'accès.
Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce et voulons que tu ouvres les oreilles de notre cœur et cette bonne parole tombe et porte du fruit. Béni sois-tu, Père.
Amen. Alors, ce matin, il va être question de parfum. Vous allez le voir rapidement. Et puis, en cette période de Noël, vous savez, on offre du parfum. Puis, moi, c'est toujours un moment douloureux quand je vais dans les parfumeries, parce que j'ai horreur de ça. Ça m'épuise. Voilà, quand je... Voilà, je suis tendu, là, je me dis, eh ben voilà. Et puis, on se rend compte finalement que, quand on passe à la caisse d'ailleurs, que le parfum est quelque chose de précieux. Hein, quand on... C'est de l'autre côté. Hein. Et ce matin, j'avais envie d'aller avec vous dans la parole de Dieu et de voir combien le parfum a une place particulière dans la parole de Dieu. Parfum précieux. Et d'ailleurs, on va lire ce texte qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, les 10 premiers versets. Donc, on a finalement l'ordonnance par rapport à la construction de l'autel des parfums. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire, qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler des parfums odoriférants, il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Donc c'est un texte, voilà, dire, voilà, très bien, ça concerne voilà, le peuple d'Israël, ils sont, le peuple des Hébreux, ils ont quitté l'Égypte, ils ont, voilà, on va leur faire leur église de voyage, leur église itinérante. Hein. Nous découvrons là l'autel des parfums qui se trouve en face du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. L'autel des parfums se trouvait ainsi au centre même du tabernacle. Aaron devait faire fumer le matin, et donc le parfum tous les matins et tous les soirs, c'est ce qu'on voit. On note ici que de manière délibérée, Dieu a donné des instructions concernant la construction et l'utilisation de l'autel des parfums d'une manière particulière. Alors qu'il a donné donc, au chapitre 25, des versets 23 à 40, le descriptif précis de la tente, hein, la tente de la rencontre, l'autel des parfums fait l'objet d'une attention toute particulière qui, je crois, doit attirer notre attention. Puisque toute parole est bonne pour nous enseigner, pour nous édifier. Lors de la dédicace de l'autel, les 12 princes d'Israël apportèrent chacun une coupe d'or pleine de parfums. C'est ce que nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 7 et au verset 14. Le sacrificateur devait aussi, donc comme on l'a lu, faire fumer le parfum lorsqu'il entrait dans le lieu très saint du sanctuaire le jour de la fête d'expiation, aussi pour se protéger de la mort. Lorsqu'on va dans le livre du Lévitique, je pense pas que vous l'ayez, Lévitique 16 au verset 12, on lit « Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum ou couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra pas. » Alors là, ça commence à devenir un peu compliqué. Là, on se dit, c'est le parfum, c'est vraiment, ça commence à être très, voilà, on est quelque chose de vraiment très doux. Lorsqu'on pense au parfum, on pense vraiment à la douceur, à la beauté, à des moments heureux. Et là, il est question de parfum qui va empêcher souvent un sacrificateur de mourir. On voit que symboliquement, le jour de la fête des expiations, le sacrificateur portait sur lui tous les péchés qu'avait commis le peuple d'Israël pendant l'année qui s'achevait. Le sacrificateur devait donc entrer dans le lieu très saint du sanctuaire pour accomplir le rite d'expiation sur le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche. Le témoignage étant dans l'arche, donc les tables, donc en dessous du propitiatoire, il mettait en évidence les péchés du peuple. La nuée du parfum protégeait le sacrificateur des conséquences de ce péché. C'est aussi les conséquences de la mort lorsqu'il était mis en présence de Dieu. Alors là, on a vu dans l'Ancien Testament la mention du parfum. On va voir que finalement, on aurait pu se dire que ça concernait que le peuple d'Israël, ils étaient sortis de l'esclavage, ils avaient quitté l'Égypte, et puis ils cheminaient et Dieu avait voulu recréer des rites alors qu'ils avaient vécu comme ça, sous l'esclavage, ils avaient peut-être été influencés par les rites des Égyptiens. Et là on arrive, je vais directement à la fin, de la Bible en tous les cas, nous trouvons le parfum dans l'Apocalypse au chapitre 8 et au verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc là, on retrouve ce parfum-là associé aux prières des saints. Je vais vous proposer encore une lecture. On va rester dans le Nouveau Testament, et là, ça va être extrêmement clair. On va voir l'interface qu'il y a entre voilà, ce Nouveau Testament, l'Apocalypse, et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 14 à 16. Chapitre 2, verset 14 à 16. Bon, moi, j'ai une version qui est un peu différente, parce que... Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. Là, vous avez, grâce au rendu à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet un parfum pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. Dans la version, nous sommes... pour Dieu comme le parfum de Christ pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort, pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? Maintenant, on va essayer de comprendre en quoi ça nous concerne, toutes ces histoires de parfum. Être chrétien, selon l'apôtre Paul, c'est être premièrement le parfum de Christ partout où nous sommes. Ce texte nous conduit dans une réalité essentielle, celle d'une conscience aiguë que nous ne sommes pas ici-bas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. On l'a encore rappelé, on s'en rappelle encore avec la nativité qu'on a fêtée. Il est question d'un parfum que nous répandons, cette odeur, c'est celle de Christ lui-même, qui par sa présence en nous, ça a été rappelé par les prières, continue à étendre son royaume dans le monde. Parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, Christ devient en nous pour les uns une odeur de vie, qui est porteuse de vie, et pour les autres une odeur de mort, qui conduit à la mort par le rejet de Christ. Dans ce monde, donc l'enfant de Dieu ne vit donc pas seulement parmi ceux qui sont sauvés, on rappelle ce texte, premier point, il est entouré aussi de ceux qui périssent. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans un lieu clos, dans un monastère, à être dans la contemplation de notre Seigneur, nous sommes appelés à vivre encore un peu de temps dans le monde. Si nous avons la tête au ciel, nous sommes encore les pieds sur la terre. Hein. Premier enseignement qui est important. Ceux qui périssent, nous dit l'apôtre Paul, sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et pour eux, la prédication de la croix, finalement, est une folie. La bonne odeur de Christ est pour eux une odeur de mort qu'ils rejettent. L'évangile, la vérité, leur est encore voilée parce que le Dieu de notre siècle a aveuglé leur intelligence. Et cette vérité, c'est là où ça nous concerne, cette vérité à aimer, c'est à nous, enfants de Dieu, de la manifester. Cette prédication de la croix qui est extrêmement importante, qui était essentielle, c'est à nous de la répandre. Cet évangile voilé, c'est à nous de le vivre parmi ceux qui périssent afin que naisse dans leur cœur l'amour de la vérité, qu'ils auront connu, entendu, senti et contemplé, incarné en nous. Je ne dis pas qu'on est Jésus, mais chrétien, c'est bien être petit Christ, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à ne pas vivre dans notre citadelle de louange, parce qu'on aimerait tellement, vous savez, les moments de louange qu'on a comme ça, et je me rappelle, sur la montagne de la Transfiguration, on a vu les disciples, on est tellement bien, on va construire des tentes et on va rester là dans la présence de Dieu, et puis on va rester là. Juste, le plan de Christ, c'était de sauver la terre entière. Je me rappelle aussi de notre ami Pierre, qui décide à un moment donné, alors même qu'il sait que Christ lui annonce qu'il va être crucifié, non, jamais. Mais nous sommes bien ici-bas pour être un parfum de bonne odeur pour notre Seigneur, et on va le voir un peu après. Mais nous sommes ici-bas pour être des témoins. Nous ne pouvons pas nous contenter simplement de dire, eh bien, oui, Seigneur, je reçois cette parole, oui, eh bien, je suis odeur de vie pour ceux, voilà, pour ceux qui, pour certains, je suis odeur de vie, et pour d'autres, je suis odeur de mort. Très bien, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Seigneur, lui, il n'est pas là-dedans, lui. Il est dans l'amour. L'amour, ça se montre. Ça se démontre, ça se prouve. Si je dis que j'ai reçu l'amour de Dieu, ça ne signifie pas que j'ai mis l'amour de Dieu dans un coffre-fort, dans une banque, qui dans une autre banque, qui dans une autre banque, qui dans un territoire reculé, au fin fond de la Sibérie. L'amour de Dieu, c'est un investissement que Dieu a répandu sur nos vies et qui nous donne de faire fructifier et de partager autour de nous. Et nous avons l'occasion de le voir un petit peu plus loin. Comment le parfum de Christ sera-t-il odeur de vie si ceux qui se perdent ne respirent pas à notre contact l'arôme excellent d'une vie qui est une lumière et dont le fruit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité? Comment le voile qui les aveugle sera-t-il déchiré si nous sommes encore soumis à l'influence du Dieu de ce siècle, écrasés, nous disant oui, mais nous sommes chrétiens et c'est compliqué, la laïcité nous empêche d'annoncer l'évangile. C'est pas facile à notre travail d'être chrétien. Tu sais, Jésus, c'est pas simple quand même. La laïcité, c'est le meilleur truc qui a été inventé pour nous, en tout cas, parce que la vraie laïcité, c'est celle qui permet de faire coexister toutes les confessions, justement. Et donc là, attention à ce que la laïcité ne soit pas pour nous, ne nous conduise pas à rester dans nos murs. Elle ne doit pas nous conduire à rester dans nos murs, elle doit nous conduire à vivre pleinement et à ne pas être gênés d'être qui nous sommes. Oui, je suis enfant de Dieu, je connais mon Seigneur et je veux vivre la vie avec Christ dans toute ma vie, dans ma vie au quotidien. Et c'est pas simplement de dire Seigneur, je suis enfant de Dieu, mais c'est simplement de le vivre, hein, de le vivre d'abord. Mais on verra ça après. J'arrête pas de faire des teasers comme ça, mais c'est pas grave. Dieu ne nous demande pas d'improviser de nouvelles méthodes pour sauver les âmes, ni de multiplier nos efforts pour prêcher aux foules. Il attend que nous, enfants de Dieu, soyons dans ces foules, parmi ces personnes parfois qu'on va pointer. Nous étions nous-mêmes des cupides, des ravisseurs, des idolâtres, des impudiques. Il nous demande simplement de vivre et d'être, tout simplement. 1 Corinthiens 5, verset 11, nous exhorte à nous séparer de celui qui se disant frère a un comportement contraire à l'identité qu'il proclame. Celui qui se dit frère. Ne prenons pas ce passage comme un outil pour nous séparer de nos bien-aimés qui ne connaissent pas Christ et qui ne l'ont pas encore accepté. Qui ira vers ce ravisseur, cet impudique, ce fornicateur, même si ce n'est pas l'enfant de Dieu? Y aura-t-il une classe d'enfants de Dieu destinée finalement à l'évangélisation de ces spéciaux? Vous savez, moi je ne suis pas un évangéliste du tout. Alors quand je le dis, je me dis, ouais, mais tu parles tout le temps d'évangéliste. Non, je ne suis pas un évangéliste. Par contre, vous savez, moi je travaille avec les enfants et j'aime être avec eux et j'aime simplement les aimer. Simplement. Être avec eux. Leur donner envie de s'attacher au Seigneur, leur donner envie de découvrir Christ, leur donner envie d'avoir envie d'être chrétien. Et le meilleur moyen, c'est d'être moi-même. C'est d'être vrai. Vous savez que les enfants, c'est simple. L'enfant, lui, vous allez arriver avec un discours bien carré, tu sais, Jésus t'aime, tu sais, tu es une créature merveilleuse, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. L'enfant, il va vous dire, ouais, d'accord. Et il va vous regarder le reste du temps. Il va vous regarder pendant tout. Vous allez être avec lui pendant 30 minutes. Et vous allez lui annoncer Jésus, la parole de Dieu, les passages bibliques. Et vous allez essayer de le faire connaître Christ, mais de manière, voilà, littéraire. Et lui, il va vous attendre au tournant. Il va vous dire, ouais, d'accord, tu sais, il faut pas que tu fasses ça, c'est pas bien ce que tu as fait avec François, tu l'as poussé. Franchement, tu sais, que ferait Jésus? Dis-toi, que ferait Jésus à ta place? Et là, l'enfant, il va vous regarder, il va vous faire un grand sourire. Et là, vous allez. Et tout à coup, vous allez vous rappeler qu'il était là lorsque vous avez critiqué un tel, il était là lorsque vous avez un peu pas été très sympa, lorsqu'on vous a demandé de faire quelque chose et que vous avez dit que vous n'aviez pas trop le temps, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux, parce que finalement, les enfants nous remettent à notre place et nous poussent à être toujours plus chrétiens, quand même, hein, à être Christ et à vivre notre chrétienté, notre identité d'enfant de Dieu au quotidien et de manière permanente. Ah, mes enfants, ils sont là, ils sont témoins. Hein. Je n'allais pas les interroger. Toute interview est contrôlée par moi-même. Mais je crois que on parle. J'insiste toujours sur. J'ai pris l'exemple du fornicateur, du ravisseur, du menteur, du querelleur. Mais je dis, mais ça, c'est nous, quoi. C'est juste nous encore. On se dit, mais lui, là, mais il a pas besoin de Jésus. Franchement, Jésus, mais c'est pas possible. En fait, et là, tu pointes le doigt, et tu regardes juste en bas, et tu vois qu'il y a trois autres doigts qui sont dans ta direction. Et là, tu te dis, ah non, mince, j'étais celui-là. Et Christ a fait dans ma vie cette œuvre qui me permet d'avoir un parfum qui glorifie son nom. Amen. Il n'y a qu'une odeur qui soit agréable à Dieu, celle qui montait les holocaustes offertes sur l'autel par Noé, puis par Aaron et ses fils. C'est comme cela que l'apôtre nomme le sacrifice de Christ, un parfum de bonne odeur. De la même manière, c'est par l'offrande de nos corps aujourd'hui, parce qu'on ne fait plus de sacrifice, le sacrifice ultime, c'est Christ. C'est par l'offrande de nos corps, de notre être tout entier, en sacrifice vivant et saint, que nous serons agréables à Dieu et que notre service pour lui sera vraiment intelligent. Dans l'Épître aux Romains, au verset 12 et au verset 1er, l'apôtre Paul nous donne un exemple précis et nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le culte raisonnable aux yeux de Dieu n'est pas celui que les enfants de Dieu célèbrent sous une forme ou sous une autre, le dimanche matin. » C'est une vie remise sur l'autel, une consécration totale, totale. Renouvelée chaque matin et engageant notre vie tout entière. Et parfois on se dit, mais ça, Seigneur, quand même, c'est le boulot des serviteurs de Dieu, être consacré. Et on oublie juste qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et là, nous avons tous un gros problème. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient consacrés. Et les sacrificateurs devaient se sanctifier. Et là, on a du boulot tout à coup. Hein. Et on se dit, Seigneur, si je dois être agréable, il faut que je prenne conscience de qui je suis, et il faut que je prenne conscience que j'ai besoin de me consacrer et de ne pas aménager ton évangile à mon quotidien. C'est extrêmement important. Restons sur le parfum. Nous avons les fils d'Aaron, qui ont vécu à leur dépens l'aménagement, finalement, de l'évangile, enfin de l'évangile, l'aménagement de la loi. Les fils d'Aaron, eh bien, sont venus, et puis ils sont dit, peut-être, oh, on va aller prendre hein, de la braise qui vient de l'autel, c'est pas très important quand même, hein. On va prendre du petit bois, puis on va l'allumer, puis on va mettre l'encens, dessus, et puis ce sera comme, quoi, ce sera tout comme. Eh bien, ils ont fait comme, vous savez. Et après, ils ont plus pu faire comme. Parce qu'en fait, ils ont voulu aménager ce que Dieu avait posé comme carré et strict. Et suite à cet aménagement, ils en sont morts. Vous savez, aujourd'hui, le feu de Dieu ne va pas sortir comme ça. On n'a pas l'arche avec nous. Mais combien de fois nous voulons aménager la parole de Dieu à notre convenance, à notre quotidien, à nos vies? Là, je parlais du « nous sommes un peuple de sacrificateurs ». Si tu acceptes Christ dans ta vie, si nous acceptons Christ dans notre vie, il est celui qui nous rétablit, qui nous restaure, qui nous lave, qui nous rhabille. Il te donne un vêtement blanc. Il y a ce fabuleux chant, un vêtement blanc, une nappe d'or, c'est ça, hein, un beau palais. Et on dit « Seigneur », et on chante ça, et on dit « Ouais, Seigneur, tu me donnes un vêtement blanc ». Seigneur, il nous a rachetés. Il nous a lavé, il nous a fait prendre conscience de notre situation, nous étions pécheurs. Et il a versé son sang sur nous, qui nous a rétablis, et nous sommes restaurés, au sens du vase qui est brisé et qui est reconstruit. Il nous restaure. Et il fait de nous un peuple de sacrificateurs. Tous, autant que nous sommes, pas seulement les serviteurs de Dieu, pas seulement les responsables, pas seulement celui qui est à une place, devant, derrière, occupé, à la zone. Non. Chacun à sa place, nous sommes des sacrificateurs, puisqu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, qui était destiné à glorifier son nom. Ce matin, est-ce que nous réalisons que, eh bien, ces personnes, ces enfants de Dieu qui doivent être agréables à Dieu, c'est nous. Ce parfum de bonne odeur qui doit monter, c'est dans de nos cœurs qu'il doit monter ce parfum. Et là, on se dit, et moi je me le dis, quand je en écrivant le message, je disais, où Seigneur, tu es. Je disais, Seigneur, je vais peut-être éviter ça quand même, ça peut froisser un petit peu. Mais non! Voilà la parole de Dieu. Il fait de nous un peuple sacrificateur. Pour Dieu, son Père, il nous apporte comme un cadeau à son Père. Vous imaginez ça? Ce matin, Dieu dit, tu es un cadeau pour Dieu. Le Seigneur te dit, tu es un cadeau pour Dieu. Il a donné sa vie et il te présente, comme il présente son Église, il présente les enfants de Dieu. Et il arrive en disant, voilà! Voilà cette créature merveilleuse! Voilà ce que j'ai fait! Et parfois, on peut en avoir honte, honnêtement. Combien de fois dans ma vie, je me suis dit, et puis je me disais, il fait de nous un peuple de sacrificateurs pour Dieu son Père, c'est-à-dire qu'il les présente. Et je me dis, honte sur moi. Bien sûr, je ne suis pas parfait, oui, on est sur Terre, alors on va trouver des circonstances atténuantes, mais tu sais, c'est difficile. Et puis tu sais, je suis entouré de gens qui ne sont pas très sympas, et puis tu sais, je suis entouré de personnes qui ne font pas des trucs sympas, et tu sais, il ne faut pas que je dénote trop quand même. Le monde c'est gris, Seigneur, tu sais, c'est pas noir et blanc, tu sais, le postmodernisme a fait qu'on a cassé le côté binaire. Non, il n'y a pas que le mal et le bien, il y a entre les deux, tu sais, Seigneur. Il y a le gris. Seigneur, tu sais, il y a le gris. C'est vrai, tu sais, gris. Mais Dieu, il dit, non, il n'y a pas le gris. Il dit, il y a le noir et le blanc. Il y a la lumière et les ténèbres. Hein? Et c'est tellement important. Je voulais commencer par le parfum parce que ça nous mène vraiment à réaliser. Si tu veux vraiment être ce parfum de bonne odeur pour ton Dieu, il faut t'enraciner dans ce passage-là. Offrir nos vies comme un sacrifice de bonne odeur. Simplement dire Seigneur, me voici tel que je suis. Tu sais, je suis très imparfait. Tu sais, je suis pécheur. Tu sais, dans ma vie, il y a ça, ça et ça. Maintenant, Seigneur, aide-moi à avancer et à m'améliorer. Parce que ce n'est pas simplement de dire, Seigneur, mais voilà, tu vois, je suis pécheur, ben voilà, hein, maintenant, tu as donné ta vie pour moi, c'est sympa, mais Dieu veut que nous avancions, que nous progressions, Dieu veut que nous changions. Du coup, être chrétien, comme il le dit à la chanson, ce n'est pas toujours rose, hein. c'est pas cool. Mais quelque part, lorsque je me mets sur l'autel, lorsque je me présente sur l'autel, je dis, Seigneur, me voici, maintenant change-moi. Je suis bien imparfait, Seigneur, mais utilise-moi. Fais de moi un vase d'honneur, Seigneur. Je suis un vase vil. Et je n'ai servi jusqu'à maintenant peut-être qu'à des choses viles, Seigneur. Mais moi, dans ma vie maintenant, je veux que tu mettes ce que tu es, Seigneur, afin que je devienne un vase d'honneur pour la gloire de ton nom. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Amen. Vous le croyez? Il y a tout pas qui croit. Oui. J'essaie de dire la parole de Dieu. Quand Jésus a été réellement accepté comme sauveur dans une vie, il ne reste pas un étranger dans notre vie. un invité de passage, confiné dans une chambre d'amis ou un grenier. Il devient le maître, le seigneur, et il transforme non seulement notre manière de penser, mais aussi notre manière de vivre. C'est pourquoi la conversion ne peut pas rester purement intérieure. Seigneur, tu as touché. La conversion, ça se voit dehors, une personne que Dieu a touchée, au dehors, les gens le voient. La conversion au ski, moi je n'ai jamais fait de ski de ma vie, un jour j'en ferai. Pas tout de suite, parce que je n'ai pas le droit, mais un jour j'irai voir.
C'est ça.
La conversion, j'ai appris, alors, je disais, j'ai appris la conversion, c'était changer de direction. Bon après, il y a une technique, hein. Là je le fais, c'est facile, sur les skis c'est facile. Mais c'est changer de direction. Et oui, la vie c'est binaire. C'est-à-dire, il y a le sens où tu dois aller, et le sens où tu ne dois pas aller. Et il n'y a pas cette direction-là. Il y a celle-ci ou celle-ci. Et le cap, le nord, hein, ceux qui font de l'orientation, le nord, c'est Jésus. Et on ne peut pas se diriger si on ne règle pas sa boussole sur Christ. Il est le cap de nos vies. Et c'est important de ne pas nous amuser à tourner la carte parfois. Vous savez, on tourne la carte, on dit « Oh, il veut m'emmener là, mais je n'ai pas trop envie. Hein. Moi, j'aimerais bien prendre cette route-là. » Vous savez, c'est comme le GPS. Le GPS, il vous donne une route. Et vous dites, il vous annonce « Tournez à droite au prochain carrefour. »
Non.
Eh oui.
Non.
Bon, prochain carrefour, vous dites « Moi, je connais une route qui est un peu mieux. » Et vous prenez la route. Vous prenez un raccourci. Vous prenez un raccourci. Je connais un raccourci. Et finalement, votre raccourci, il mène à rien du tout. Moi, je me suis amusé à ce truc-là. Quand vous êtes dans un lieu que vous ne connaissez pas, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer des raccourcis. Ah oui, il a dit deux fois à droite, donc ça veut dire que je peux aller tout droit. Ah oui, s'il a dit deux fois à droite, c'est bien, ou deux fois à gauche, c'est bien qu'il y avait quelque chose à contourner. Et tu arrives devant un sens interdit. Tu te dis, t'as fait quoi? T'as perdu 10 minutes. Combien dans nos vies nous perdons du temps en essayant de travailler un petit peu avec les axes que Dieu nous donne? Nous perdons du temps. Je pense que moi, je ne suis pas un fataliste. Je ne suis pas je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui attendent les derniers temps. Moi, j'attends pas les derniers temps. Hein. Mais, vous savez, il y a quand même des signaux qui doivent nous interpeller quand même. On ne sait pas quand Christ va revenir. Alors, soit on a deux politiques. Soit on se dit, ça va, les temps sont pas trop mauvais, un peu quand on gagne le temps, c'est pas, ça va, c'est pas trop... J'attendrai que voilà, ce soit un peu plus serré. Je viendrai passer un peu de temps avec le Seigneur et puis on verra ce que je dois ajuster. Vous savez, personne d'entre nous ne sait à la sortie de ce culte ce qu'il fera. Pas un d'entre nous. Et je pense que c'est une conscience que nous devons avoir. Aucun d'entre nous ne sait ce qu'il fera dans 5 minutes. Personne ne sait si Christ ne reviendra pas dans 2 minutes. Peut-être que ça vaut la peine de nous interroger sur nos vies. Et cette interrogation, il faut que nous la menions à chaque instant. Parce que quand viendra le temps d'être devant notre Seigneur, eh bien on prendra une grande inspiration. On dira, Seigneur, ben, je pensais avoir un peu plus de temps. Et le Seigneur te dira, mais je t'ai donné le temps. Toute ta vie, je t'ai donné le temps. Et je t'ai vu, hein. Et je t'ai envoyé des signaux. Oui, mais tu ne m'as pas donné des signaux assez forts, Lazare. Tu m'as pas donné... Non, mais quand même, tu aurais pu être plus insistant. Il te dit, tu veux un signal fort, le voilà. Le Seigneur veut que de nos vies monte un parfum en l'honneur de son nom. Nous avons besoin de laisser le potier nous reformer par l'action de la croix en nous. La croix qui sauve, c'est aussi celle qui crucifie, qui nous crucifie, nous brise, nous broie, car c'est de nous-mêmes avant tout que nous avons besoin d'être sauvés. C'est nous-mêmes qui nous attirons nous-mêmes. Parfois, nous nous avançons nous-mêmes, nous dit la parole de Dieu. Alors la croix devient aussi l'autel où se consume une vie entière, notre vie consacrée à Dieu. Nous voyons que ce parfum est une place essentielle pour Dieu, à telle enseigne qu'il donne des consignes pour sa fabrication. Et on va relire le chapitre 30, et on va voir un petit peu plus précisément comment dans nos vies ça peut prendre forme. Donc on va lire le chapitre 30, mais là ce sera verset 22 à 38, tu ne l'as pas, Florent. Chapitre 22 à 38. Donc Exode chapitre 22 à 38. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa vase. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la garderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'ordre du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre. Tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le garderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Nous voyons donc ce parfum qui est essentiel. On va regarder les quelques éléments qui sont importants et que je vous invite à garder pour vous. Les différents éléments qui devaient entrer dans la composition du parfum devaient être pris en proportion égale. De même, dans notre vie chrétienne, le parfum de Christ, la vérité et l'amour de Dieu et de notre prochain, la justice, doivent se trouver parfaitement équilibrés comme cela fut manifesté en Jésus. À la lecture des évangiles, on pourrait également ajouter la persévérance, la consécration et la sanctification. Sanctification, consécration, justice, vérité, amour de Dieu et de notre prochain. Je crois que ce sont les ingrédients qui devraient se trouver dans le parfum de nos vies. On va prendre un autre élément. Une fois le mélange obtenu, il devait être pilé très fin, réduit en poudre. Jamais notre nature ne pourra exhaler le parfum de Christ. Par nature, nous sommes orgueilleux, implacables, égoïstes, souillés, impurs, menteurs, injustes. C'est ce que nous dit Galates 5:21. Mais tels que nous sommes, nous pouvons aller à la croix où, devant l'amour de Christ, notre orgueil et toutes nos tendances naturelles seront brisées et broyées. Alors, de l'orgueil brisé se dégagera le parfum de l'humilité. Et de tous nos penchants naturels broyés dans le concasseur des souffrances de Christ, se répandra pour Dieu ce merveilleux parfum doux, subtil, ce parfum de douceur, de bonté, de pureté, de vérité, de justice. J'irais même, dans Galates 5:22, ce parfum d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Ce parfum, entre nous, on n'est pas capable de le fabriquer tout seul. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Ce parfum, on peut le fabriquer et le laisser s'exhaler que par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Sans l'Esprit de Dieu dans ta vie et sans l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu n'es pas capable d'exhaler ce parfum de justice, de paix, d'amour, de bienveillance, de bonté. Tout cela, naturellement, nous ne pouvons pas le faire. Ce parfum devait être salé, pur et saint, nous dit le verset 35. Il doit en être ainsi de nos vies qui doivent être gardées de la corruption, préservées de tout mélange étranger, de toute souillure. C'est ce que je vous ai dit avec les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron ont appris à leurs dépens qu'on ne peut pas apporter notamment un feu étranger pour faire brûler du parfum. Vous pouvez lire ça dans le Lévitique au verset 10, au chapitre 10 et au verset 1er. Nous ne devons pas mélanger ce qui est saint et ce qui n'est pas. Nous ne devons pas accepter du gris dans nos vies. Je le redis encore. Nous ne devons pas aménager notre quotidien pour y poser à différents endroits, vous savez, des petits lumignons, de l'encens, pour que ça sente bon, vous savez. La maison, on a fait cuire du poisson. Il y a une mauvaise odeur, on a débouché les égouts et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des petites bougies à la fraise, vous savez. Et dans nos vies, vous savez, on est comme ça. Dieu, il n'a que faire des bougies à la fraise, hein. Il préfère sentir le poisson et qu'on lui dise, Seigneur, on a fait griller du poisson. Seigneur, moi j'ai péché. Seigneur, je suis tombé. Seigneur, j'y arrive pas simplement. Il préfère qu'on lui dise ça et qu'on arrive à ses genoux et qu'on se répande devant lui. Et lui agira pour nous permettre de développer les comportements qui nous permettront d'être agréables en son nom. Quatrième point, réservé pour l'Éternel. Ce parfum était réservé pour l'Éternel et personne n'avait le droit d'en composer un pareil pour son usage personnel ni d'en humer l'odeur. De même, c'est à Dieu qu'appartiennent nos vies. Et nous ne vivons pas pour nous-mêmes, pas plus que nous n'avons à nous satisfaire en nous-mêmes, de nous-mêmes et en nous-mêmes, en voulant sentir ou faire sentir l'odeur de nos œuvres. Nous n'avons pas à nous congratuler de tout ce que nous faisons. Je n'ai pas à prouver à Dieu ce que je suis par mon action. Si j'agis pour Dieu, c'est parce que je l'aime. Amen. Ce que je fais pour Dieu, c'est parce que je l'aime. Je ne fais pas une comptabilité de mes actions de manière à ce que je puisse mettre en face des actions moins heureuses. Amen. Vous croyez ? Luc 10, 17 nous dit « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Enfin, ce parfum devait être brûlé devant l'Éternel. Chaque matin et entre les deux soirs sur le brasier de l'autel, l'autel d'or. Pour que l'odeur se répande, il fallait que chaque jour le feu de l'autel soit maintenu. De même, il est nécessaire que le feu de l'amour de Dieu nous consume pour que le nom de Jésus répande autour de nous son odeur. Nous pourrions avoir toutes les connaissances, toutes les qualités, toutes les vertus, les dons spirituels les plus grands, 1 Corinthiens 13, si nous ne sommes pas animés du feu de l'amour de Dieu. Le parfum de Christ ne se dégagera pas de nous. Nous ferons des choses, nous serons comme un airain qui résonne. L'amour de Dieu dans nos vies est un moteur. Dans la vie de l'enfant de Dieu, vivant en toute authenticité et en vérité sa foi, l'amour de Dieu a été déversé dans son cœur par le Saint-Esprit qui lui a été donné. Ce cœur devient alors un encensoir divin par lequel Dieu répand dans le monde le parfum du fruit de son esprit, ce qu'on a vu. Sachons discerner les temps et mesurer qu'il nous faut apprendre à nous consacrer ou nous reconsacrer. Il faut que notre consécration puisse nous mener même à nous sanctifier. Lorsque nous regardons l'agencement du temple, nous découvrons combien la pureté et donc la purification des sacrificateurs étaient essentielles. La cuve d'airain leur permettait de se laver les pieds. Nous avons vu en Lévitique 16 que le parfum couvrait les péchés du peuple lorsque le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu saint pour l'expiation des péchés du peuple. Et lorsque nous lisons Job 36, verset 5, nous réalisons combien en Dieu il y a toujours un chemin de retour. Ce texte nous dit « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois et il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes ? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité ? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leurs orgueils. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leurs aveuglements. » Je crois qu'il y a là vraiment un grand message d'amour. Chers bien-aimés, nous ne savons pas nécessairement quand Christ reviendra, seul le Père le sait. Et je crois qu'il est bon pour nous d'apprendre à persévérer. Persévérer dans l'exhalation de ce parfum que Christ veut que nous puissions exhaler. Aucun argument, aucune discussion ne saurait convaincre autant que la puissance du témoignage. Et là, je pensais au témoignage. Soyons vigilants et soyons veillants et priants pour ceux que Dieu nous a donnés et pour ceux que Dieu met sur notre route. Mais bien plus, soyons veillants et priants pour nos vies afin qu'elles respirent la vérité et l'amour de Christ. Que ferons-nous, nous disait l'apôtre Paul dans ce passage qu'on a lu dans la deuxième épître aux Corinthiens, que ferons-nous donc ? Mais je crois que la réponse, c'est nous qui pouvons l'apporter. Il n'y a que nous qui pouvons l'apporter. Que ferons-nous donc face à cette parole ? Que ferons-nous donc ? Et moi, je vous invite à considérer nos voix à chacun, à la lumière de la parole, et de nous dire, Seigneur, que ferais-je donc ? Que ferais-je donc maintenant ? T'ai-je mis dans un recoin de ma maison ? Es-tu un invité qui est maintenu dans la chambre d'amis ? Es-tu un invité permanent qui est devenu quelqu'un de la maison, un ami qui peut aller dans tous les coins ? Que ferons-nous donc ? Je vous invite à prier. Seigneur, je te bénis encore parce que ta parole est vérité et tu nous enseignes que ta parole, Seigneur, nous permet d'avancer et de grandir dans ta connaissance, Seigneur, et dans la connaissance de ce qui t'est agréable. Seigneur, cette parole, si elle peut être dure, je sais que cette parole, elle est pleine de vie. Et ce texte que nous avons lu dans le livre de Job, Seigneur nous renvoie à cet amour tellement grand pour nous. Seigneur, tu nous aimes tellement et tu veux nous rendre vraiment des outils qui glorifient ton nom. Tu veux nous transformer en un parfum merveilleux, Seigneur, qui soit vraiment en ton honneur, Seigneur. Oui, nous te chantons, Seigneur, et nous savons que tu te réjouis lorsque ton peuple te chante. Mais Seigneur, nous savons que ce parfum bien plus important, bien plus merveilleux pour toi, c'est le parfum de nos vies. C'est le parfum de cœur repentant, c'est le parfum de cœur qui glorifie ton nom, c'est le parfum de ce fruit de l'esprit, Seigneur, que tu nous donnes de manifester éternel par l'action de ton esprit en nous. Oui, Seigneur, cet amour, cette joie, cette paix, cette bienveillance, cette bonté, cette maîtrise de soi, Seigneur. Seigneur, tout cela, nous ne pouvons pas le faire et nous le mesurons bien. Nous ne pouvons faire que assister de ton esprit, Seigneur. Eh bien, Seigneur, que tous ensemble, Seigneur, nous puissions mesurer combien nous avons besoin de l'assistance de ton esprit, combien nous avons besoin de te laisser toujours plus de place en nous. Et Seigneur, qu'ainsi nous puissions, eh bien, nous réformer, Seigneur. Nous réformer jour après jour, Seigneur. Que dans nos cœurs puisse briller ce feu, brûler ce feu, se consumer ce feu permanent qui nous donne de toujours pouvoir être brillant et être lumière autour de nous, Seigneur, également. Seigneur, tu as fait de nous, eh bien, des lampes, et ces lampes, nous ne voulons pas les mettre sous le boisseau, Seigneur. Tu nous rappelles qu'il faut que nous soyons sel et lumière. Seigneur, nous ne voulons pas être insipides. Nous ne voulons pas nous diluer dans ce monde, Seigneur. Nous ne voulons pas nous diluer dans les circonstances de nos vies, même parfois, Seigneur. Nous voulons être fidèles et nous enraciner dans ta parole, Seigneur. Et en cela, c'est toi qui nous aides. Seigneur, viens au secours de nos incapacités, viens au secours de nos errements, Seigneur, viens au secours de notre vie, Père Saint, parce que tu veux que nous puissions vraiment devenir des vases d'honneur. Sois béni, Père Saint, et que cette parole soit source de vie pour chacun de nous, Père Saint. En ton nom, Seigneur, je t'ai ainsi prié. Amen.
Amen.